le journal Felipe Lamondo.
La Fondation Carter est formelle. Les transferts des résultats du scrutin présidentiel du 29 octobre des bureaux de vote au centre de compilation s'est fait dans la transparence. Toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'y ait aucune falsification. De son côté, la mission d'observation électorale de l'Union européenne minimise l'incidence de l'abus du vote par dérogation sur le résultat publié par la CEI. Cette conclusion ressort de l'étude menée à partir notamment des chiffres collectés par les équipes de la mission sur le terrain. En Ituri, pour la toute première fois depuis 2003, Mathieu Ngoujolo, le leader du mouvement des révolutionnaires congolais, est arrivé à Bounia hier. Par la même occasion, l'ex-chef milicien nommé récemment colonel au sein des FRDC annonce l'envoi du premier groupe de ses hommes au brassage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il n'y a pas de doute sur la crédibilité des résultats transmis des bureaux de vote au centre local de compilation des résultats du scrutin du 29 octobre dernier. La déclaration est de la Fondation Carter, contenue dans un communiqué signé hier. Selon son co-directeur du bureau régional à RDC, Colin Stewart, l'opération de compilation a transmis fidèlement les résultats obtenus lors du dépouillement dans le site de la Commission électorale indépendante, évitant toute manœuvre de falsification des résultats. Colin Stewart est au micro de Karine Kakassi.
Nous avons pu conclure que le processus de compilation, c'est-à-dire le processus de transmettre les résultats directement des bureaux de vote et les convertir en résultats publiés, a été bien fait et cela porte essentiellement sur les mesures de transparence qui ont été mises en place. Vous savez, la CEI a fourni aux deux candidats des copies des fiches des résultats, ce qui leur a permis de vérifier bureau de vote par bureau de vote les résultats par rapport à ce qui a été publié.
De son côté, la mission d'observation électorale de l'Union européenne indique que l'incidence de l'abus du vote par dérogation sur les résultats publiés par la CEI serait très minime. Pour l'heure, la mission poursuit son examen des données recueillies par ses observateurs sur le terrain et des chiffres mis à sa disposition par la CEI. Selon le général Philippe Morillon, chef de la délégation, la mission entend apporter quelques clarifications techniques, en particulier sur la question du vote par dérogation. On l'écoute au micro de Karine Kakassi.
Il semble qu'il y ait eu quand même un nombre très élevé de ces électeurs à l'occasion de la contestation qui s'est élevée à ce propos. Ils ont pris l'engagement d'étudier avec les résultats des observations de nos observateurs sur le terrain et surtout avec les données qui nous ont été fournies par la Commission électorale indépendante, quelles incidences auraient pu avoir un abus du vote par dérogation sur les résultats du scrutin. Et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, que nous avons exposées au terme d'une analyse très fine, bureau par bureau, l'influence sur les résultats du scrutin n'aurait pas excédé 650 000 voix sur un total de 16 millions de voix exprimées.
Par ailleurs, le général Philippe Morillon a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les résultats avant le traitement de recours par la Cour suprême de justice. Après publication mercredi 15 novembre dernier par la Commission électorale indépendante des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle, le candidat Jean-Pierre Bemba a rejeté jeudi ces résultats au motif que ces derniers seraient entachés d'irrégularités. Les leaders de l'Union pour la Nation a promis de recourir aux voies légales pour obtenir réparation. Que dit précisément la loi électorale au sujet de ces recours? Les éléments de réponse avec vous, Jeff Ngoy.
Selon l'article 72 de la loi électorale, seul le candidat indépendant ou son mandataire et le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale peuvent contester une élection dans un délai de 3 jours après l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale indépendante. La loi électorale souligne que le recours du requérant à la Cour suprême de justice doit contenir des preuves matérielles précises. Il faut d'abord une lettre de recours à laquelle doit être annexée une suite de documents attestant qu'il y a eu fraude ou irrégularité. Il faut par la suite formuler une demande auprès de la Cour pour annuler ou réparer l'élection. En fin de compte, la Cour suprême de justice dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date où elle a été saisie pour rendre ses décisions. Dans son arrêt, les recours introduits à la Cour sont déclarés soit irrécevables, soit fondés. Ce n'est qu'après avoir épuisé cette procédure que la Cour proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Si la juridiction admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Elle communique l'arrêt ou le jugement à la CI pour publication. Dans tous les autres cas, elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin.
Rappelons que le candidat de l'Union pour la Nation, Jean-Pierre Bemba, a jusqu'à ce samedi 16h30, heure de Kinshasa, pour déposer d'éventuels recours contre les résultats provisoires publiés par la CEI, selon la Cour suprême de justice. D'après le greffier en chef de la Cour, Albert Tambachana, se confiant à l'AFP, les délais de 3 jours accordés aux candidats, à leurs mandataires ou à leur formation politique par la loi électorale court depuis jeudi au lendemain de l'annonce des résultats provisoires par la CEI et prend fin aujourd'hui à 16h30, heure quinoise. D'après les greffes de la CSJ, la Haute Cour n'avait encore reçu aucun recours hier vendredi à la mi-journée. Le départ des forces de l'Union européenne de la RDC n'interviendra qu'après le 10 décembre prochain. La précision a été apportée hier par le président du comité militaire de l'UE au cours d'un point de presse animé à la base des forces de l'Union européenne en Dolo à Kinshasa. Selon le général Henri Benteja, le fort gardera tout de même une capacité d'action jusqu'à la mi-décembre. Les forces de l'Union européenne pourront donc intervenir pour protéger les personnes pouvant être menacées. Rappelons que le mandat de le fort doit en principe s'arrêter d'ici fin novembre. Le général Henri Benteja, président du comité militaire de l'Union européenne, est au micro de Adia Chipuku.
Le fort gardera une capacité d'action au moins jusqu'à la moitié du mois de décembre, encore forte, puisque le vrai départ des unités essentielles de l'EUFOR n'interviendra qu'après le 10 décembre. Ce que l'EUFOR pourra toujours faire, c'est intervenir pour protéger les personnes chaque fois que des personnes seront menacées quelque part. Vous voyez que ça laisse quand même, quoi qu'on dise, un minimum de capacité d'action. Parce que, après tout, c'est bien ce qui reste essentiel ici. La MONUC se renforce actuellement dans la région de Kinshasa, qui reste la plus sensible. Et d'autre part, si des personnes sont menacées, à ce moment-là, le fort sera toujours en mesure d'intervenir. Il n'y aura plus tout à fait les mêmes capacités. Bah, concrètement, si vous voulez, c'est seulement quelques moyens d'environnement, quelques moyens de renseignement qui seront rentrés avant le 10 décembre. Mais la plupart des forces, c'est-à-dire des unités de combat, des unités d'intervention, seront toujours là.
Le général Henri Benteja, président du comité militaire de l'Union européenne. Sachez que lors de la publication des résultats du second tour de l'élection présidentielle, quelques dérapages ont été enregistrés à Kamina, dans les Katanga, notamment l'incendie des habitations de certains partisans de l'Union pour la Nation. Suite à ces incidents, le commissaire des districts ad intérim du Haut-Lomami appelle ses administrés à adopter un comportement responsable. Des éléments de la police nationale ont été déployés à la cité de Kamina et dans la périphérie en vue de maintenir l'ordre public. Le point avec Denise Maéo-Moissi.
À Kamina, les manifestations de joie sur la victoire de Joseph Kabila au second tour de l'élection présidentielle ne se sont pas déroulées sans incident. Un pasteur de l'église armée du salut, accusé d'avoir insulté les manifestants, a vu sa maison saccagée. Une autre maison en paille a été incendiée, une paillote détruite, d'autres maisons endommagées par des personnes qui prétendent fêter la victoire de Joseph Kabila. Les victimes sont principalement des militants de l'Union pour la Nation. Le commissaire de district ad intérim du Haut-Lomami a appelé les jeunes gens à éviter les débordements et exprimer leur joie dans la dignité. Ce vendredi matin, le coordonnateur de l'AMP, section du Haut-Lomami à Kamina, a condamné ces actes inciviques. Benjamin Kasongo affirme que les coupables ne sont pas nécessairement des partisans de l'AMP. Entre-temps, des éléments de la police d'intervention rapide ont été déployés à la cité et dans la périphérie de Kamina, avec pour mission d'arrêter tous ceux qui se livrent à ces actes de vandalisme au motif de festoyer la victoire de Joseph Kabila. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
2 morts, 30 maisons brûlées et des personnes dispersées, c'est le bilan de nouveaux affrontements entre les tribus Banounou et Bantende à Bolobo, localité située à plus de 300 km au nord-ouest de Bandundouville. Selon des sources concordantes, un conflit de cohabitation entre les deux tribus dans un quartier de la cité est à la base de ces différends depuis le 14 novembre dernier. Écoutons le témoignage d'Edouard Moukemo de la société civile Bolobo. Il a été joint au téléphone par Jacques-Yves Molima.
Il y a des incidents qui se déroulent ici depuis 3 jours. Un affrontement à la machette, à armes, fusil de chasse, tout ça, entre le peuple Batende et les Banounous. Il y a eu deux morts, dont une femme brûlée dans une église, une trentaine de maisons brûlées, des personnes dispersées dans les deux quartiers habités principalement par les deux tribus. Les femmes et les enfants ont évacué. Il y a eu des blessés graves. Ils ne sont pas pris en charge, ils sont à l'hôpital. Les médecins chef de zone avec d'autres médecins sont en train de faire un effort, mais ils n'ont aucun moyen de prise en charge.
À propos de ces incidents à Bolobo, on apprend que le ministre de l'Intérieur a réuni hier les notables de Bolobo présents à Kinshasa en vue de ramener la paix dans ce coin. Une mission a ainsi été mise sur pied et elle a même été dépêchée sur le terrain depuis hier. Le ministre Denis Kaloumé se rendra lui-même demain dimanche à Bolobo, selon la RTNC, qui a diffusé cette information au cours de son édition d'hier vendredi à 20h. Au Nord Kivu, les habitants de plusieurs quartiers de Goma se plaignent des tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains éléments de la 11e brigade intégrée commis à la sécurité de la ville. Selon eux, à partir de 19h, ces hommes raquettent en ravissant des téléphones, de l'argent et autres biens de valeur qu'ils trouvent sur des passants. La commune la plus touchée est celle de Karizimbi. Pas plus tard qu'il y a une semaine, un chef de quartier de cette commune a été sérieusement fouetté pour s'être opposé à ce genre de pratiques. Les points avec Charles Ndricha.
Le cas le plus récent d'insécurité est celui d'une famille dont l'enfant de 12 ans a reçu une balle mardi la nuit à la jambe dans la cellule de Nyabunyu du quartier Lac Vert de la commune de Goma. Selon les chefs de ce quartier, ce sont deux militaires du 113e bataillon basé à Mugunga et venus à moto qui ont attaqué la famille vers 20h suite à un conflit qui opposait un lieutenant de ce bataillon à cette famille, dit-il. Le bourgmestre de Karisimbi, la commune la plus affectée par cette situation, M. François Gachaba, dit avoir enregistré depuis deux semaines plus de 50 plaintes des habitants de son entité mettant en cause la même brigade.
Il y a un constat malheureux qui fait état de l'insécurité de notre population causée par la police militaire. Dans Madjengo, Mabanga Nord, Mugunga, Katoy, il y a ceux qui perdent leur téléphone, l'argent qui est raflé le soir. Et la journée, il se transforme en OPJ. Il y a des civils qui chaque fois sont arrêtés par des militaires. Ils sont la plupart des fois insolents. Il s'agit bel et bien des militaires PM qui s'égarent dans leur mission de sécuriser la population.
Le commandant intérimaire de la 8e région militaire, le colonel Delphine Kahimbi, estime que tous les militaires de cette brigade ne sont pas concernés, même si des bavures sont enregistrées. Il promet toutefois de s'investir personnellement. Ne voulant pas culpabiliser ces hommes, les commandants de la 11e brigade intégrée, le colonel Moukissa, compte, dit-il, se rendre dans différents quartiers de Goma pour échanger avec les responsables locaux afin d'envisager des mesures de correction. C'est depuis le mois d'août dernier que cette brigade a été déployée depuis le sud Kivu pour sécuriser la ville de Goma et sa périphérie. Charles Ndrigicha, Goma, Radio Kapi.
En Ituri, pour la toute première fois depuis 2003, Mathieu Ngoujolo, leader du mouvement des révolutionnaires congolais, est entré dans la ville de Bunia hier. C'est confiant à la presse, le numéro 1 du MRC, qui a été nommé récemment colonel au sein des FRDC, a confirmé l'envoi du premier groupe de ses hommes le 4 décembre prochain dans un centre de brassage de Bunia. Des précisions avec Aimé Nseya.
Le milicien Mathieu Ngoujolo est entré dans la ville de Bunia ce vendredi aux environs de 14h30. Il est escorté par deux jeeps remplis de militaires des FARDC et de certains éléments de sa garde rapprochée. À ses côtés, le général vainqueur Mayala, commandant des opérations FARDC en Ituri, et Dieudonné Mbuna, secrétaire général de son mouvement. Première escale, le quartier général de la MONUC, où il a rencontré la presse. Il a ainsi expliqué le sens de sa visite à Bunia et a annoncé en même temps l'organisation prochaine d'un congrès qui devra statuer sur l'avenir du MRC.
L'objectif de ce congrès est de scinder l'armée et la politique après l'intégration. Comme moi, je suis déjà nommé, les militaires doivent aller à l'intégration et les politiciens doivent continuer avec leur lutte politique. Et si je suis venu ici, c'est pour rassurer la population et les éléments de la FRDC et qu'ils sachent qu'à partir de maintenant, il n'y a pas de problème entre les éléments du MRC et la FRDC.
À sa sortie du quartier général de la MONUC, Mathieu Ngoujolo a été applaudi par un groupe de sympathisants. Rappelons que selon l'accord signé avec le gouvernement jeudi dernier à Kambutso, il est prévu le regroupement d'environ 200 combattants du MRC au centre de Rwampara au sud de Bunia. Bunia et MCR Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans les suds qui vous, un premier contact a bel et bien eu lieu entre le commandant de la 10e région militaire avec la 118e brigade et un groupe de dissidents appelé groupe des 47. Ce groupe se trouve à Biboko, Biboko-Boko depuis 3 semaines dans le moyen plateau. Selon la 10e région militaire, ces dissidents commandés par le colonel Bissogo et qui étaient jusque-là opposés au brassage vont réintégrer l'armée et partir au brassage. On écoute le général Chukwege au micro des Fiston Ngoma.
J'ai causé avec le colonel Ngoufou, j'étais avec le général Dunia. Ensemble, nous avons causé avec le colonel qui est à Biboko-Boko dans les montagnes Bissoko. J'ai causé avec lui, j'ai donné le téléphone, il a causé aussi avec le colonel Ngoufou. Je crois que très bientôt, là, je vais rentrer pour concrétiser ce que nous avons causé. La population doit se rassurer, doit être très calme, tout va bien se passer.
Signalons que ces premiers contacts sont intervenus hier lors de la visite qu'a effectuée le général Chukwege, commandant de la 10e région militaire à Baraka, pour y évaluer la situation sécuritaire. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Okay.